Radio Classique. Et votre journée devient plus belle.
Bon réveil, bonne journée, soyez les bienvenus sur Radio Classique. Nous sommes le lundi 6 juillet à 6h30.
La matinale de Radio Classique avec Dimitri Pavlenko.
Soyez les bienvenus, ravi d'être avec vous encore ce matin. Question ce matin, qui restera au gouvernement, qui en partira? À quelques heures du remaniement, Mélina Fachin, le suspense est entier.
Après la nomination vendredi du nouveau Premier ministre Jean Castex, l'Élysée dévoilera son casting gouvernemental dans la journée. On sait qu'il se composera d'une vingtaine de ministres et secrétaires d'État. Selon un sondage IFOP paru hier dans le JDD, certains membres du gouvernement actuel semblent particulièrement sur la sellette. 27% des Français seulement aimeraient voir Christophe Castaner conserver le ministère de l'Intérieur. Les policiers, eux aussi, souhaitent son départ, Éric Kioche.
Sympathique, mais pas taillé pour le costume. Voilà comment des représentants syndicaux nous ont dépeint Christophe Castaner. Trop politique, pas assez fin connaisseur de la maison police. 1 an et 9 mois ne lui auront pas suffi pour convaincre. Alors, il faut tourner la page, nous confient des policiers. Première des critiques, une communication incompréhensible, notamment lors des mouvements des Gilets jaunes et de la réforme retraite. Un jour, il nous soutient. Le jour d'après, nous sommes responsables de violence. Il n'a jamais su assumer une position, lâche un CRS. Un début de désamour qui s'est accentué pendant le confinement, mais la rupture est définitivement consommée le 8 juin avec l'annonce du plan de lutte contre le racisme dans la police. Nous nous sommes sentis blessés. On avait l'impression d'être tous des racistes alors que c'est faux, ne décolère toujours pas un agent. Pour le remplacer, les uniformes réclament un vrai capitaine et pourquoi pas un ancien policier.
Les précisions d'Éric Kioche pour Radio Classique. Les policiers qui ont reçu tard hier soir la visite de Jean Castex. Le successeur d'Edouard Philippe a fait une visite surprise dans un commissariat de la Courneuve en Seine-Saint-Denis pour apporter son soutien aux forces de l'ordre.
Jean Castex qui est d'ores et déjà d'accord avec Emmanuel Macron sur un point. La réforme des retraites ne doit pas être abandonnée.
Le nouveau Premier ministre a confirmé hier dans le JDD ce que le chef de l'État avait déjà annoncé. Le dialogue avec les partenaires sociaux doit reprendre dès cet été. Complètement prématuré, estiment la plupart des syndicats. Pour François Omeril, le président de la CFE-CGC, il y a clairement d'autres priorités.
Pour moi, c'est rallumer la mèche près de la poudrière. Le confinement avait fini par éteindre une crise sociale majeure qui avait jeté dans la rue la moitié de la France. Relancer la réforme comme ça dans l'été, alors qu'on est confronté à des problématiques économiques, des enjeux absolument majeurs sur lesquels il faut quand même une forme de consensus et de mobilisation. J'ai du mal à comprendre et à accepter. Ça s'apparente peut-être à une faute politique pour un nouveau gouvernement qui a toujours un peu de crédit. Donc consommer comme ça le crédit en quelques jours, je trouve ça très très étonnant et peut-être même très inquiétant. On verra.
François Omeril de la CFE-CGC au micro de Céline Cajoulis.
Autre ambition à court terme de Jean Castex, clore une bonne fois pour toute le Ségur de la Santé.
Et ce, dès cette semaine si possible. Faute d'accord et en plein remaniement, cette grande conférence avec les représentants des personnels médicaux a été prolongée vendredi dernier. Le gouvernement a mis sur la table 7 milliards d'euros pour la revalorisation des salaires des soignants. C'est loin d'être suffisant, estiment les syndicats qui réclament le double. Félix Ledoux, le président de la Fédération des étudiants en soins infirmiers, estime que la balle est désormais dans le camp du gouvernement.
Ce qu'on peut voir, c'est que l'enveloppe budgétaire ne répond pas du tout aux attentes, hein. Et c'est là où il y a un problème. C'est que on a été écouté et entendu pendant cette semaine et l'arbitrage budgétaire aujourd'hui n'est pas en faveur de ce qu'on a pu faire remonter comme problématique et ce sur quoi on a pu se mettre d'accord entre partenaires sociaux. Les semaines de concertation qui ont eu lieu n'ont pas été inutiles. Toutes les choses ont été notées et donc aujourd'hui, je pense qu'il n'est pas souhaitable de reprolonger à nouveau de cette semaine, par exemple, ces concertations. Il faut simplement que le gouvernement aujourd'hui mette les moyens nécessaires pour l'hôpital public et pour l'ensemble du système de santé, j'ai envie de dire.
Félix Ledoux, président de la Fédération des étudiants en soins infirmiers, au micro de Charles Bonner.
Radio Classique, il est 6h34. Les étudiants et l'emploi des jeunes. Voilà un autre gros dossier sur la table du futur gouvernement.
Dans la presse régionale, il y a quelques jours, Emmanuel Macron a indiqué qu'il y aurait des incitations financières à l'embauche. L'enjeu est de taille. 700 000 jeunes se retrouveront à la rentrée sur le marché du travail. Et avec la crise du Covid-19, leurs perspectives sont peu réjouissantes, Émilie Vallès.
Léa s'est inscrite sur tous les sites d'emploi. emploi possible et envoyé des dizaines de CV sans succès. Son BTS en poche, cette Nantaise de 19 ans voudrait concevoir et vendre des cuisines. Elle a dû se résigner pour l'instant à un emploi précaire.
J'ai rappelé mes boîtes d'intérim que j'avais appelées les étés avant et je suis en fin de compte dans un atelier d'usine où je fais un petit travail à la chaîne. Je suis obligé de faire un travail que j'ai pas envie de faire. C'est un stress d'avoir fait des études pour avoir un travail que je voulais et puis en fin de compte ne même pas pouvoir le pratiquer.
Nicolas, 21 ans, vient d'obtenir une licence pro commerce à Aix-en-Provence. Il veut travailler dans l'immobilier, mais là encore, sa trentaine de candidatures n'a pas abouti.
J'ai aussi essayé de changer d'approche, de demander potentiellement un stage pour pouvoir faire quelque chose et c'est les mêmes réponses. Certaines même m'ont dit qu'elles avaient dû se séparer récemment de certaines personnes, donc c'est pas le moment où elles allaient en prendre de nouvelles.
Nicolas ne peut pas toucher le RSA car il a moins de 25 ans, il a donc dû retourner vivre chez ses parents.
J'ai ma bourse qui s'arrête là, et là j'ai plus de ressources financières. Bon, j'ai mes parents qui m'aident un peu, mais ils font comme ils peuvent et pour le coup, ils sont eux aussi impactés par la crise du coronavirus. Ils sont traiteurs et c'est plus compliqué financièrement aussi de pouvoir m'aider derrière.
Ce jeune homme espère que la situation se débloquera en septembre et pour se donner toutes les chances, il a commencé à envoyer des CV partout en France.
Reportage d'Émilie Vallès.
Dans le reste de l'actualité, la fin du cauchemar pour l'Ocean Viking.
Le navire humanitaire d'SOS Méditerranée qui a enfin obtenu le droit de débarquer en Sicile vient de vivre 10 jours en enfer. À bord, la situation a été extrêmement tendue pour les 180 migrants et les bénévoles. Ce matin, la vice-présidente d'SOS Méditerranée France, Fabienne Lassalle, est donc soulagée mais aussi très amère.
Les derniers jours ont été absolument éprouvants. À bord, la situation devenait intenable. En 4 ans et demi d'opérations de sauvetage par l'Aquarius et l'Ocean Viking, nous n'avions jamais connu une telle situation de stress et de difficulté à bord. Des bagarres, des tentatives de suicide, il y en a eu jusqu'à 6, que des personnes qui à la fois se mettaient en danger elles-mêmes, mais mettaient également en danger les autres rescapés, y compris notre équipage. Nous sommes soulagés, mais nous sommes juste atterré de l'absence de réactivité et désespéré de voir le peu de solidarité des autres États européens.
La vice-présidente d'SOS Méditerranée, au micro de Marc Tédé.
C'était le journal de Mélina Fachin. Merci Mélina, vous revenez à 7h30 pour l'heure. 6h37 sur Radio Classique, le kiosque éco.